Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, on fait le tour de la question en compagnie de Julie avec vos questions, vos témoignages, si vous le souhaitez, au standard. Nous sommes le 14 février et depuis l'entre-deux-guerres en France, c'est la date qui célèbre les amoureux, la célèbre Saint-Valentin. Et on va en profiter à côté de ce que certains considèrent comme une fête commerciale pour redécouvrir les grandes passions de l'histoire. L'histoire aussi du coup de foudre. La flamme de l'amour s'entretient par les mots, la correspondance. L'histoire de Juliette Drouet et de Victor Hugo nous retiendra justement l'attention sur la vertu de ces correspondances, comment on échange aujourd'hui l'amour en 2019. Eh bien, on en parle. C'est un grand programme qui nous réunit jusqu'à 11h ce matin avec nos spécialistes et vos réactions. Au standard.
9h, 11h, 21.
On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transit.
L'amour ou l'anamour, comme le chantait Gainsbourg au programme de ce tour de la question. Bonjour Jean-Claude Bologne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui avez écrit sur le couple, sur le célibat, sur la conquête amoureuse et sur les fameux coups de foudre. Alors, auréolé par ces chansons qui vont nous guider jusqu'à 11h, je voudrais d'abord que vous nous rappeliez rapidement d'où vient cette Saint-Valentin, sachant que Valentin n'est pas spécifiquement le saint des amoureux, Jean-Claude Bologne.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est une tradition qui est bien attestée depuis le XIVe siècle en Angleterre, depuis le XVe siècle en France. Et c'est Charles d'Orléans qui était prisonnier à Londres, qui a sans doute rapporté, en tout cas qui parle le premier de la Saint-Valentin en France. Mais c'est dans une tradition assez courante d'associer au printemps, au réveil de la nature, les amoureux. La tradition voulait que les oiseaux fassent leur nid le 14 février.
Ah, c'est joli.
C'est joli. Oui. Alors, le 14 février, il est tombé la fête d'un certain Valentin, oui. Et on a inventé de belles histoires pour justifier que Valentin devienne le patron des amoureux, mais qui sont des reconstitutions tardives.
C'est ça.
Et c'est au XIXe siècle, en Angleterre, que c'est vraiment devenu une mode.
Avec des petits cadeaux associés, du chocolat aux fleurs.
Avec surtout des lettres à l'époque, et c'était l'occasion de se déclarer lorsqu'on était un petit peu timide. C'est très récent que c'est devenu la fête des amoureux de tous les âges et de toutes les durées de passion. Lorsqu'on était marié depuis 20 ans, il n'y a plus de raison de fêter la Saint-Valentin. Là, c'était vraiment l'occasion de se déclarer lorsqu'on n'osait pas aller directement voir une jeune fille. Et puis, depuis une cinquantaine d'années, c'est devenu une mode internationale. Et effectivement, une fête commerciale au Japon, c'est le grand jour du chocolat.
Ah oui.
Effectivement, ça, ce sont les dérives d'une fête romantique.
Bien sûr, voilà pourquoi certains préfèrent passer à côté aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est votre expertise et c'est la manière dont vous vous êtes penché sur les évolutions du couple, en partant de cette expression aussi coup de foudre, qui est une expression qu'on emploie un petit peu à volo aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit qu'on a eu un coup de foudre pour une voiture, pour un pull, etc. Alors qu'au départ, c'était évidemment extrêmement fondé sur le coup d'amour immédiat.
Alors, l'expression coup de foudre a longtemps désigné une surprise extraordinaire. Et c'est en 1741, là c'est daté de façon assez précise, que pour la première fois, on parle d'un coup de foudre amoureux. Alors dans une atmosphère qui n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, c'était l'époque libertine. Et donc le coup de foudre était un amour immédiat qui permettait à une femme de se donner immédiatement.
Un amour pulsionnel, Olivier.
Pulsionnel, oui, voilà. C'est un excellent prétexte pour ne pas se faire la cour pendant longtemps avant de succomber à un homme.
Ah oui.
À tel point, dit Crébillon, qui est le premier à employer l'expression, qu'il y a des femmes qui connaissaient 4 ou 5 coups de foudre par jour.
Ah oui.
C'est extrêmement pratique.
D'accord.
Et donc, il faut, pour le coup de foudre romantique, il faut attendre le romantisme.
Il faut attendre le romantisme.
Et là, effectivement, c'est la rencontre de deux âmes, les âmes sœurs qui s'étaient connues au ciel et qui vont se rencontrer sur terre. Là, on est beaucoup plus dans le sentimental.
Quand on est chaviré, évidemment, ça vous l'expliquez bien dans vos différents ouvrages, où c'est pulsionnel, où c'est chimique, ça passe par la peau, ça passe par la voix aussi. Louis XIV est tombé notamment amoureux d'une voix, comme vous le racontez.
C'est ce qui se dit, oui, que Louis XIV avait beaucoup de propositions de maîtresses, mais il avait toujours cette interrogation, est-ce que c'est pour moi ou est-ce le roi qu'on le recherche?
Oui.
Et entendant un jour, en passant devant un buisson, des jeunes filles qui discutaient, et l'une qui avouait son amour pour le roi, qu'elle n'aurait jamais osé déclarer, serait tombé amoureux immédiatement, et il aurait reconnu un petit peu plus tard la voix de cette cette fille d'honneur. Bon, c'est une histoire un petit peu tardive pour qu'on y prête tout à fait foi, mais des amours par la voix, ça existe. Il y a une anecdote que j'aime bien, parce qu'elle concerne le fils d'un perruquier, donc quelqu'un qui ne doit pas laisser son nom dans l'histoire, un certain James Parry à Bristol, qui était un enfant de cœur, qui avait une voix absolument superbe, et au moment où sa voix va commencer à muer, donc on lui propose l'opération qui fera qu'il gardera sa belle voix de castrat toute sa vie, une jeune fille de son âge le remarque, et ils ont des échanges uniquement à travers la grille du chœur. Elle lui tend sa tabatière, elle met dans la manche de son surplis, il la remet sous des partitions, et ils ont comme ça une petite cour sans un mot. Elle est tombée amoureuse de sa voix, et elle va finir par le sauver, imaginer tout un plan avec sa mère pour l'extraire de cette opération qui est inévitable.
Ah, c'est joli, mais de toute façon, le coup de foudre, alors on en parlera de ces différents coups de foudre aussi dans l'histoire, ça fait partie du roman fondateur de certains couples. Aujourd'hui, on valorise le coup de foudre, peut-être plus qu'on ne le faisait au XVIIIe siècle, hein, puisque vous parliez de différents coups de foudre par jour. C'est devenu quelque chose de très noble dans une histoire d'amour, le coup de foudre.
Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle le storytelling du couple. Pour justifier qu'on est bien ensemble depuis longtemps, on réinvente le roman de la rencontre, et le coup de foudre est un des éléments qui veut dire que la rencontre était prédestinée, on n'a pas succombé aux pressions de la famille, on est libre de ses choix, sauf que on se rend compte que la plupart des coups de foudre, des relations amoureuses en général, se concluent dans un même milieu social. Donc il y a quand même les circonstances qui ne sont pas tout à fait de libre choix. Mais ça fait partie des choses qu'il est bien d'avoir vécues. Ou alors, le coup de folie, le petit coup de sang d'un soir, c'est un des grands mythes amoureux de l'époque moderne. Le livreur de pizza qui sonne, le plombier qui arrive, c'est le coup de foudre, et puis on ne le reverra jamais plus. Voilà. Ça fait partie des mythes de l'époque moderne.
On n'est pas dans le même romantisme. Ouais. Bon, coup de foudre ou coup de soleil, hein, vous connaissez la chanson. Hein.
J'ai rattrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime.
Une exploration des coups de foudre dans l'histoire avec Wendy Bouchard.
Oui, comment évolue le sentiment amoureux aussi dans notre histoire, avec une pudeur, on peut le dire comme ça, qui se transforme au gré du temps. Est-ce qu'on se dit d'ailleurs, Jean-Claude Bologne, vous qui êtes historien du couple et de l'amour, davantage je t'aime aujourd'hui, avec moins de tabous précisément, et pas simplement je t'aime à son amoureux, son amoureuse.
Alors le mot aimer a été un gros tabou, parce que l'amour n'est pas un sentiment conjugal à l'origine. C'est un sentiment extra-conjugal. Ce sont les jeunes qui sont frappés par la flèche de Cupidon, si l'on y croit, ou par le diable dans la tradition catholique. Et l'amour conjugal, c'est plutôt ce qu'on appelle une amitié, une tendresse, donc des sentiments qui sont censés être plus forts. Et donc dire je t'aime à l'époque classique, 17e, 18e, est plutôt réservé à des amants, c'est le cas de le dire, qu'à un mari. Rappelez-vous la fameuse princesse de Clèves.
Oui.
Lorsque son mari, le prince de Clèves, meurt, il ose enfin dire à sa femme qu'il l'adorait d'une passion ardente. Et il disait, je n'ai jamais osé vous le dire de mon vivant, si je puis dire, auparavant, parce que je ne voulais pas vous effrayer avec des sentiments que l'on n'attend pas d'un mari. Donc l'amour et le mariage n'étaient pas censés faire bon usage. C'était une passion plus apaisée. Alors, depuis l'époque romantique, on ose un peu plus se dire je t'aime, à tel point que le mot s'est dévalorisé. Et il y a une époque, dans ma jeunesse, je dirais dans les années 60, 70, 80, où c'était presque un gros mot de dire je t'aime. Il fallait dire je te désire. Et c'était plus du tout de la mode. Maintenant, un peu plus romantique, effectivement, le je t'aime revient un peu à la mode.
Il revient avec les textos, surtout si beaucoup, c'est facile d'écrire je t'aime.
Ouais.
Plus facile que de le dire en face à face.
C'est plus facile de le dire en face à face, c'est plus facile de l'abréger avec un M ou avec un petit cœur.
Voilà, plein de trucs maintenant pour dire je t'aime.
Mais c'est vrai que
c'est une façon de
on sort
de
un peu du tabou.
Pudique, oui.
Complètement.
Moi, j'ai reçu un petit texto ce matin, ben voilà, c'est fait. Hein.
Ben voilà, c'est beau les petits cœurs et les petits textos.
Les petits machins, voilà, c'est plus facile.
Tout à fait.
Faut l'attendre derrière la porte en disant je t'aime, mon amour.
C'est bien aussi. Il va le faire aussi. Fabienne Kremer est avec nous. Bonjour, Fabienne.
Bonjour Wendy.
Julie est ravie aussi de vous entendre.
Bonjour Fabienne.
Chère Fabienne, vous qui êtes psychanalyste, spécialiste de l'amour et du couple et qui avez publié 21 clés pour l'amour slow, l'amour lent, tranquille, on va en parler.
Qui prend son temps, voilà.
Vous rejoignez aussi Jean-Claude Bologne aujourd'hui sur ce qu'il dit du je t'aime qui nous décomplexe un petit peu plus, justement. On a davantage envie de le dire d'ailleurs, et cette occasion du 14 février en est une.
Je pense que ça dépend des générations, pour être honnête avec vous. Le je t'aime, il est très axé sur les générations. Et les nouvelles générations, je ne suis pas sûre qu'elles soient très aptes à dire je t'aime si aisément que ça.
Se disent beaucoup je t'aime entre copines, entre copains, comme ça. Voilà.
Ouais. Voilà. Mais dans le couple, parce que l'idée, le problème à l'heure actuelle, c'est de se dire qu'on est en couple. C'est de démarrer une histoire et de s'avouer justement qu'on s'aime. Il y a une sorte de pudeur. On a très peur de déclarer, d'afficher une sorte de faiblesse en disant que des sentiments ont surgi dans la relation. Comme on fait un peu tout, pas à l'envers, parce que j'ai pas de jugement là-dessus, mais comme on a tendance à se rencontrer très vite, voire à avoir des relations sexuelles assez rapidement, l'arrivée du « je t'aime », c'est une étape vraiment très, très importante.
Oui, mais
assez difficile, tout en fait.
Je vous conseille de regarder un peu les statuts, d'ailleurs, sur Facebook. Moi, ça me fait souvent rire, parce que je vois en couple le lundi, célibataire le mardi, en couple le jeudi, chez un certain nombre de jeunes qui sont manifestement assez dans la recherche amoureuse. Mais c'est quelque chose d'afficher son statut, de le dire d'ailleurs. Il y a 14 millions de célibataires aujourd'hui, par exemple. Donc ils le disent. Ça fait partie aussi du processus, de l'étape de la conquête et la reconquête amoureuse.
Oui, c'est à partir de quand on est en couple, à partir de quand on est ensemble, à partir de quand on a un projet et on commence à s'investir l'un avec l'autre, à s'engager. Si ça fait extrêmement peur aujourd'hui aux générations, je dirais à partir de 20 jusqu'à même les quarantenaires ont du mal avec ça. Donc ma génération, celle des cinquantenaires plutôt, avait vraiment démocratisé le « je t'aime » parce qu'elle souffrait de parents qui avaient peut-être une difficulté à avouer leurs sentiments ou elle trouvait que c'était un peu trop caché. Mais en revanche, nos enfants, eux, rêveraient de dire « je t'aime » à tout va comme leurs parents leur ont dit, mais ont des difficultés à se le dire parce que c'est une façon de se dévoiler et c'est une angoisse.
On va voir avec vous comment les sites, les applications de rencontres et ce marché, ce commerce de l'amour a peut-être décomplexé justement la relation amoureuse, la parole aussi sur le sujet, puisqu'on parle de l'amour dans tous ses états ce matin, à l'occasion de ce 14 février, avec l'historien Jean-Claude Bologne, Fabienne Kramer qui était avec nous à l'instant. Et puis nous évoquerons un couple si singulier, 50 ans d'amour, de tendresse, de passion, Juliette Drouet, Victor Hugo, un des couples de l'histoire. À tout de suite. Et Julie, on vous attend au standard. Si vous
bien
souhaitez
sûr,
réagir et nous dire votre amour.
Voilà, vous faites le 39-21.
Voilà, les grands couples, si vous êtes 50 ans de mariage, ça nous intéresse. Hein, c'est beau, hein. Donnez-nous les recettes. Europe 1.
À la découverte des grandes passions de l'histoire en ce jour de Saint-Valentin, on va parler maintenant de slow love.
Bah oui, à côté du
Bouchard.
Speed de Zazie.
Après le speed, oui.
Jean-Claude Bologne est avec nous, historien, auteur de l'histoire du couple aux éditions Perrin, de l'histoire du coup de foudre aux éditions Albin Michel. C'est passionnant, vous nous direz d'ailleurs, que vous qui avez travaillé sur le célibat, comment ce statut affiché du célibataire a évolué dans le temps. Fabienne Kramer est avec nous, psychanalyste et spécialiste de l'amour et du couple, auteur de 21 clés pour l'amour slow, justement. On est pas dans le speed. L'amour qui prend son temps, qu'est-ce que c'est, Fabienne Kramer ?
C'est l'amour qui prend son temps aux trois temps de l'amour, c'est-à-dire la rencontre, mais aussi le moment où l'amour se développe, et où on passe de l'état amoureux, justement, à l'amour réellement. Et puis aussi au moment de se quitter, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir que justement le coup de foudre dont on parlait tout à l'heure surgisse au premier regard, au premier date, au premier café que l'on prend. On a tendance à vouloir que tout soit là quand on commence à s'installer dans la relation amoureuse, que tout soit au rendez-vous, et puis on se quitte d'un SMS, et vous savez, vous avez sûrement entendu parler du ghosting, et après on ne donne plus de nouvelles à quelqu'un d'autre. Donc l'amour slow, c'est quelque chose qui laisse le temps, parce qu'il y a une physiologie dans l'amour. Pour pouvoir tomber amoureux, il faut se mettre à fabriquer des neurones, des hormones, tout un système qui se met en place dans le corps. Et ça prend du temps. Donc ça ne peut pas être aussi rapide que ce qu'on voudrait en réalité.
Et ben, c'est intéressant de vous entendre aussi dans ce monde de la rencontre virtuelle, les rencontres sur Internet, les applications qui créent des couples magnifiques, on en connaît tous. Hein. Et d'ailleurs, 72% des Français pensent qu'il est possible de rencontrer l'heureux élu via ces applications, Jean-Claude Bologne. Quel est votre sentiment là-dessus sur ce monde virtuel à la rescousse aussi des rencontres d'antan ?
Alors, l'Internet a donné, je dirais, un tambour, un écho extraordinaire, une facilitation à des procédés qui sont, je ne dis pas vieux comme le monde, mais qui ont moins deux siècles.
Oui, les petites annonces.
La rencontre virtuelle, c'est les petites annonces, c'est les agences matrimoniales. Tout ça est né au 19e siècle de l'exode rural. C'est-à-dire, dans un village, ce sont les parents ou les marieurs qui marient les enfants. Mm-hmm. À partir du moment où ils se retrouvent à Paris seuls, il faut que d'autres intermédiaires et cet amour virtuel, si je puis dire, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, bien entendu, naît à cette époque-là, contre les tendances romantiques au coup de foudre ou à l'amour platonique que l'on va cultiver pendant longuement. Mm-hmm. Donc il y a une accélération, je veux dire, grâce à Internet, et il y a une focalisation sur un certain type de conception de l'amour. L'amour de celui qui nous ressemble. En gros, il y a deux grandes images de l'amour. Il y a l'amour électrique, le pôle négatif rencontre le pôle positif, et ce sont les opposés qui tout à coup... ou bien alors, c'est l'âme sœur, c'est celui qui nous ressemble de toute éternité, le même profil.
D'ailleurs, c'est ce qu'on met, hein, on entre des critères, ce qu'on recherche chez l'autre, etc. Il faut que les cases soient cochées au bon moment, au bon endroit.
Et on match à 90%, et c'est merveilleux. Et ça, c'est une conception de l'amour qui se répand de plus en plus, justement parce que ce sont des algorithmes qui vont déclarer qu'il y a compatibilité ou non. Et l'amour des opposés, qui existe toujours, il ne faut pas généraliser non plus, mais l'amour des opposés, les contraires qui s'attirent, est un petit peu moins à la mode qu'au 19e siècle. Quasimodo et Esmeralda, le ver de terre amoureux d'une étoile, ce sont des mythes qui existent toujours, mais qui sont un petit peu moins sensibles aujourd'hui.
C'est vrai, Fabienne Kramer, hein, qu'on est dans une recherche...
On pourrait penser avec les applications que ça allait nous offrir tout un territoire et qu'on allait pouvoir développer des amours beaucoup plus mixtes.
Justement, oui.
Et c'est pas du tout le cas. Il y a une forme d'homogamie qui s'est mise en place parce que justement, il y a, comme il le dit très bien Jean-Claude Bologne, il y a tout un système de critères d'exigence qui font qu'on cherche quelqu'un qui, en quelque sorte, qui nous ressemble pour pas prendre de risques. Mais moi, ce que je veux dire dans ce genre de choses, c'est que si vous avez des idées extrêmement précises de la personne qui vous va, je peux vous dire que vous vous trompez. Mmh. Parce que justement, on ne sait pas qui nous convient. Et les idées précises que l'on a, elles nous sont en fin de compte dictées par notre histoire, nos origines, etc. Et on manque terriblement d'imagination en amour, en fait.
Oui, et puis ce qui nous convient à un moment donné n'est pas peut-être ce qui va nous correspondre tout au long d'une vie. Aussi.
Oui, et puis je crois qu'il y a notre imagination est vraiment restreinte et qu'il y a des tas de gens qui pourraient nous convenir, qui sont d'une originalité folle. Et que, alors, on pourrait penser que les applications, et moi je le pense sincèrement, les applications c'était quand même un magnifique outil pour découvrir des gens au hasard, un petit peu, des gens. Et on les utilise pas comme ça. On essaye absolument que les gens soient ressemblants, compatibles, alors que. Oui, la compatibilité, elle me semble essentielle, mais ce que je veux dire, la ressemblance n'est pas essentielle.
Absolument.
Au contraire.
Ouais. Plus d'un tiers des Français, en tout cas, déclarent avoir déjà utilisé une application ou un site de rencontre. On va reparler. Hein. Et n'hésitez pas à témoigner aussi si vous êtes allé sur Adopte un mec, sur Tinder, sur Mythique, sur Appen. Il y a tout un tas d'applications aujourd'hui. Et en effet, de grandes histoires qui sont sorties aussi de ces rencontres. Il y a toujours finalement la même quête hein, pour les femmes, chercher le prince charmant. Alors justement, ça, je vous ferai réagir sur le sujet, Jean-Claude Bologne, avec deux grands couples à la une dans un instant, ma chère Julie.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Michel Legrand, Macha Merrill, Julie, quelle histoire d'amour magnifique. C'est incroyable, on en parle avec Jean-Claude Bologne de l'amour, avec Fabienne Kramer également. Coup de foudre avorté dans les années 60, c'était un amour chaste à l'époque. Ils étaient mariés l'un et l'autre, ils se sont quittés pour mieux se retrouver. Et ils en ont si bien parlé de cet amour 50 ans plus tard. Macha Merrill qui racontait chez Daphné Burki, c'était l'an passé. 50 ans après cette première rencontre, ils vont voir s'ils se plaisent vraiment. Elle le raconte, Macha Merrill, avec toujours son ingéniosité. invité et sa facétie. Écoutez.
La soirée se passe, un coup de Bordeaux, la cheminée, et quand même, le moment fatal arrive, il faut que je me mette dans le lit. Je me suis glissée dans le lit, enroulée dans ma chemise de nuit à manches longues. Tétanisée. J'avais le trac, je peux pas vous dire. Michel était nu, moins effarouché que moi. Les mecs, ils ont pas peur. Hein. Bon. J'ai enlevé ma chemise de nuit sous les draps, tremblante, mais résolue. Le sort de notre relation allait se jouer dans ces instants. Dès que j'ai senti son corps contre le mien, mes craintes s'évanouirent. Nos deux peaux se plaisaient, se voulaient et trouveraient une manière de s'épouser, de nous emmener loin, très loin, en apesanteur, dans les constellations d'étoiles. Le désir ne finit jamais, on dit qu'il se calme avec le temps. Je peux vous assurer que c'est faux.
Voilà, c'est pas beau ça, Fabien Crémer, c'est magnifique.
Raconte, hein. Ah ouais. Elle raconte ça à la radio. Hein.
Elle raconte à la radio, mais avec quand même de la pudeur. 74 ans, 81 ans pour cette rencontre, Fabien Crémer, c'est pas une belle histoire d'amour ça?
C'est magnifique. Et il y a un mot de ce qu'elle dit qui, moi, me marque. Elle dit qu'elle était résolue. Je crois que l'amour, c'est un risque. Et que de temps en temps, il faut avoir... le courage, parce qu'elle décrit quand elle enlève sa chemise de nuit qu'il a fallu un coup de courage. Il faut du courage pour prendre le risque d'aimer. Mmh. Et aujourd'hui, on a tendance à vivre quand même beaucoup sous assurance, avec, je sais pas, on fait rien sans gilet pare-balles ou parachute. Et en fin de compte, l'amour, c'est un moment où on risque de s'engager, de se lier à un autre, de faire que sa vie en dépend, que bien entendu des souffrances pourraient arriver par l'autre, que l'absence de l'autre, ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, Macha Meryl, ben, ça doit être extrêmement douloureux. Mais au moins, c'est une aventure qu'on a envie de vivre. Et elle le décrit extrêmement bien. Et bien entendu, il n'y a pas d'âge, ça c'est certain.
Ben oui, Jean-Claude Bologne, c'est ça qui est beau aussi dans les histoires d'amour affichées aujourd'hui, c'est que l'image du couple a aussi évolué à travers l'histoire sur la différence d'âge, sur le métissage, la mixité des couples.
Oui, bien sûr, mais il faut aussi se garder à l'esprit que nous vivons une époque où le mariage n'est plus obligatoire et n'est plus le début du couple et où le divorce par consentement mutuel est facile. On a vécu pendant 20 siècles une époque où on s'engageait avant de se connaître et on s'engageait pour la vie et pour l'éternité. Donc nécessairement, la conception du couple a changé. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de malheurs dans certains couples et pas mal de bonheur dans d'autres couples. Et on a toujours en tête les histoires de mal mariés, les histoires qui finissent mal. Mais il y a aussi cette histoire de Saint-Simon. Lorsque Saint-Simon parle de son mariage, il a 20 pages pour faire l'éloge de son beau-père. Et puis trois mots un petit peu gentils pour sa femme. Oui. 30 ans plus tard, c'est un veuf inconsolable. Et c'est un mariage qui était heureux, alors qu'au départ, ce n'est certainement pas un mariage d'amour.
Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait le coup de foudre justement extra-conjugal, mais dans ces mariages, on va dire arrangés, hein, pour simplifier un petit peu, l'amour arrivait quand même à naître par nécessité.
Oui, dans la théorie catholique qui a prévalu quand même pendant 10 siècles, je dirais, l'amour naît du mariage, l'amour, le vrai amour conjugal naît du mariage, ou bien transforme cet amour de concupiscence que l'on peut connaître, que tout le monde peut connaître, mais qui est naturel, qui n'est certainement pas divin, en amour matrimonial, en amour conjugal. Et dans certains cas, ça ne marche pas toujours. Il ne faut certainement pas écrire en rose, mais dans certains cas, ça marche. Je pense aux mémoires du comte de Sauvigny, où je dis tous les soirs, nous promenons 3-4 heures avec mon épouse dans les grandes salles du château de Sauvigny. Et puis, lorsqu'on vient nous dire, attention, la soupe est devenue froide, il dit, mais faisons encore un tour. Et c'est ça aussi l'amour conjugal tel qu'il se construit et non pas tel qu'il naît d'un coup de foudre.
Jean-Claude Bologne est encore avec nous. Je vais libérer Fabien Crémer en 7 jours de Saint-Valentin. Est-ce que vous avez un petit message, notamment pour les célibataires plus affichés qu'avant? Ils sont 14 millions et alors leur statut a changé évidemment. D'ailleurs, il y a des célibats aussi revendiqués, Fabienne.
Moi, je crois qu'il faut jamais lâcher le sujet de l'amour et jamais lâcher l'idée qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui on est bien. Hélas, à notre époque, peut-être plus qu'à une autre époque, il faut chercher. Donc, je dirais, continuez à chercher, ne renoncez pas. Après, le célibat, c'est pas une plaie en soi. Hein. C'est des moments aussi, il faut en profiter parce que c'est des moments où on peut avoir toute liberté. Donc, il faut essayer de bien vivre son célibat en se disant que tout le monde a droit à l'amour et tout le monde le mérite. Il n'y a pas des gens qui sont moins aimables que d'autres. Très souvent, dans ma consultation, les gens me disent « je ne me sens pas aimable ». Ça, c'est faux. Tout le monde est aimable tel qu'on est.
Merci Fabienne Kramer. Merci beaucoup. Je renvoie à votre ouvrage « 21 clés pour l'amour slow, l'amour tranquille » aux Presses universitaires de France. Juste après la pause, nous échangeons avec Thierry Sforza, qui est co-auteur d'une pièce musicale sur Juliette Drouet au studio Héberto à Paris. Il va nous parler de cet amour légendaire, vraiment, entre Drouet et Victor Hugo. À tout de suite sur Europe 1 avec Julie et vos commentaires.
On en vient à ce couple étonnant de notre histoire française entre amour, création et littérature. Vous nous l'aviez annoncé. Hein. On va parler de Victor Hugo et Juliette Drouet.
Absolument, Julie, et cela fera réagir notre invité en studio, Jean-Claude Bologne, auteur de l'histoire du couple aux éditions Perrin et de l'histoire du coup de foudre chez Albin Michel. Nous sommes avec Thierry Sforza. Bonjour Thierry.
Bonjour Wendy.
Vous qui êtes co-auteur d'une pièce musicale en hommage à Juliette Drouet, justement, « Si mon nom vit, ton nom vivra ». C'est au studio Héberto en ce moment à Paris. Victor Hugo, Juliette Drouet, leur histoire a été un roman. On la résume peut-être trop simplement à une pure liaison, mais c'est une histoire qui transporte un lot de joie, de tristesse, de trahison, de sexe et de sentiments. Ils se sont aimés pendant un demi-siècle, Thierry Sforza. À l'époque, les femmes ne sont que les compagnes des hommes ou au mieux leur épouse. On en parlait un petit peu avec Jean-Claude Bologne. Pourquoi Juliette Drouet et Victor Hugo s'attirent à ce moment-là ?
Pourquoi ? Excusez-moi, je vous ai pas mal entendu.
Pourquoi Juliette Drouet et Victor Hugo s'attirent alors qu'il a 31 ans, qu'elle en a 27, qu'il multiplie les conquêtes et qu'elle multiplie les amants ?
Parce que c'est un vrai coup de foudre qui va se dérouler lors de l'audition de la pièce Lucrèce Borgia. Elle va auditionner pour le rôle de la princesse Negroni.
D'accord.
Et en fait, c'est dès l'instant où ils se sont rencontrés, regardés, ça a été un véritable coup de foudre. Elle lui a donné une réplique et au lieu que ce soit le comédien qui devait la lui rendre, Victor a pris la parole et lui a simplement dit... Elle lui a dit « Vous avez l'amour à la bouche » et lui a répondu « Et vous dans les yeux ». Et tout est parti de là. Ça a été un véritable coup de foudre. Ils vont s'aimer pendant 50 ans. Mais surtout, Hugo, elle va être l'inspiratrice de ses romans, de ses pièces de théâtre, principalement de Des Misérables, car l'enfance et la vie de Fantine et de Cosette va être complètement inspirée de la vie de Juliette. Et Juliette a été beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup de risques lors du coup d'État de 1851, où la tête de Victor Hugo a été mise à prix. Juliette, elle, a eu un mandat d'amener contre elle, et elle lui a fabriqué un faux passeport, lui a organisé la fuite pour partir à Bruxelles, et après de Bruxelles à Guernesey, Jersey et Guernesey. Et surtout, elle a pris tous les risques, c'est-à-dire qu'elle, c'est elle-même qui a pris la malle des manuscrits, et principalement celle des Misérables, et lors de leur voyage, par deux fois, cette malle a failli passer par-dessus le bord, et c'est elle-même qui l'a repêchée.
Et elle va l'accompagner, oui. Elle va l'accompagner dans toutes ses épreuves, dans ses 20 ans d'exil, vous en parliez. 50 ans d'histoire, Thierry Sforza, sauf que pendant ces 50 ans, Victor Hugo, qui a une appétence sexuelle énorme, qui est un grand séducteur, va multiplier les conquêtes. Juliette Drouet le sait. Elle ne cessera d'être finalement sa maîtresse, on va dire, officielle, mais l'une des femmes de sa vie.
Oui, parce qu'en fait, Juliette se sentait... au-dessus de toutes les autres. Oui. Parce que même quand Victor Hugo lui écrit de très belles lettres, parce qu'ils se sont quand même écrit 22 000 lettres, c'est quand même énorme, alors que Juliette en a en plus brûlé beaucoup.
Ça fait presque une et demie par jour, hein, on a calculé sur 50 ans de vie, c'est magnifique.
C'est ça, c'est ça. Et avec celle qu'elle a brûlée, c'était pratiquement 3 par jour, ce qui est quand même énorme. Oui. Mais Juliette a appris en plus les maîtresses qu'il avait bien entendu, mais elle lui pardonnait parce qu'en fait, c'était... C'était une vraie cristallisation qu'il y avait entre les deux. C'était une vraie fusion. Ils étaient liés, ils étaient tressés, tant évidemment amoureusement, mais que même de manière littéraire. C'est-à-dire que ça a été son inspiratrice, ça a été sa journaliste. Et d'ailleurs, je pense que si Juliette avait vécu dans nos années, elle aurait été une grande journaliste à la Françoise Giroud. Elle était dans cet esprit-là. Bon, avec le côté féminisme et féministe évidemment en moins, mais avec cette passion dévorante à tel point, c'est que lorsque, évidemment, les maîtresses se parlaient entre elles, et quand Léonie Billard a envoyé les lettres que Hugo lui avait écrites à Juliette en disant « Madame, je vous demande de vous retirer », elle a lu les lettres et elle s'est dit « Non, Hugo a pratiquement recopié les mêmes, mais en moins bien ». Donc elle se sentait quand même la maîtresse en chef, mais ça a été vraiment l'amour de sa vie, même si Hugo l'a trompé autant.
Puisque vous parliez de lettres, Iris Forza, d'abord, il y a cette histoire que vous mettez en scène au studio Héberto à Paris, et je la recommande à nos auditeurs. Et je recommande aussi de lire la correspondance Drouet-Hugo, oui. Parce que c'est plein de tendresse, d'amour, de sexe, de dévouement, c'est magnifique. Je voudrais que Julie termine ce petit entretien en lisant les mots de Juliette Drouet. Nous sommes le 26 janvier 1872. Elle a 65 ans et elle écrit inlassablement « Mon amour ».
Dites donc, monsieur le poète, à quelle étonnante infirmière sont dédiés ces vers galants que vous n'avez pas jugé à propos de me faire copier. Ce petit scrupule de conscience cache probablement une grosse infamie dont mon pauvre vieux cœur aura à souffrir, hélas. À preuve, c'est que le sourire contraint que j'ai tâché d'ébaucher en commençant cette question s'achève dans mes yeux pleins de larmes. J'ai tort d'avoir encore de ces curiosités douloureuses, mais j'ai encore plus tort de t'aimer en 1972 avec la même passion ardente et jalouse que j'avais en 1933. Cet anachronisme est plus qu'une faute, c'est un ridicule qu'il est juste que j'expie. Tant pis si je t'aime trop.
Eh oui, ils se sont tant et trop aimés, c'est ça Thierry Sforza.
Oui. Tout à fait, je voulais quand même rajouter deux choses. Lorsque nous venons d'entendre, vous pourrez l'écouter et le voir au théâtre Héberto, effectivement, parce que nous reprenons ce passage aussi de lettres. Et surtout, je voulais aussi vous dire que Hugo aimait tellement Juliette que lorsque il écrit Les Misérables et qu'il va citer la nuit de noces entre Marius et Cosette, il va la dater de leur rencontre, c'est-à-dire entre le 16 et le 17 février 1833. Et ça, Juliette a été folle ouais. d'amour pour ça, alors que Madame Hugo, elle, en l'apprenant, a été folle de rage.
Évidemment.
Et,
voilà.
et pour finir, je voulais juste vous dire que citer encore Juliette qui lui a écrit à la fin de sa vie. Si grand que vous soyez, monsieur, j'aurai toujours de l'amour par-dessus votre tête. Je ne sais pas où je serai l'année prochaine à la même heure, mais je suis heureuse et fière de signer mon certificat de vie par ces seuls mots. Je t'aime.
Merci beaucoup Cyril Sforza, magnifique. La pièce musicale Juliette Drouet, c'est au studio Héberto à Paris et la correspondance est à lire et à relire encore. Encore quelques minutes ensemble en ce jour de Saint-Valentin pour célébrer les grandes passions de l'histoire et pour parler de l'évolution du sentiment amoureux avec notre invité en studio Jean-Claude Bologne.
C'est tout.
Un bijou, cette déclaration. Hein.
Superbe partition amoureuse écrite par Michel Berger, offerte à France Gall, mais offerte aussi peut-être à Véronique Sanson. Son amour déçu, c'est ça qui est beau. Ce sont aussi des chansons à différentes lectures. Jean-Claude Bologne, vous qui êtes historien du couple et de l'amour, les mots qui se choisissent aussi bien dans une correspondance, on l'entendait avec Juliette Drouet et Victor Hugo, que dans les chansons. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons que les couples associent à leur propre histoire. Ça résonne ?
Ah, oui, chaque couple, en construisant son storytelling, a des sentiments qui peuvent être construits et a aussi des témoins. Mmh. Les chansons peuvent être des témoins. On a tous effectivement une chanson privilégiée qui vient quelque part. Mais c'est vrai que les mots font beaucoup pour construire un amour. Et je repensais en écoutant votre question à un certain Louis Simon, qui est un petit étaminier, donc quelqu'un qui faisait un ouvrier, une étamine, dans un petit village du Maine dans les années 1750, qui est un des rares paysans à écrire ses mémoires à la fin de sa vie. Oui. Et il dit ce que j'ai vécu. C'est un coup de foudre dans une église avec une certaine Anne Chapeau. Il se voit, il s'aime. Bon. Et il écrit j'ai beaucoup lu de romans d'amour et ce que j'ai vécu est plus fort que les romans d'amour. Et beaucoup plus triste. Et l'importance d'une histoire qui tourne mal, mais que l'on récupère, ça fait partie du mythe de l'amour qui triomphe de tout. Et on retrouve dans ses mémoires des expressions qui viennent des chansons à la mode. Mmh. Donc on construit son amour avec les mots des autres. Il y a une lettre de Pline le Jeune, je remonte un petit peu plus loin, 1er siècle, qui est extraordinaire à sa femme, Calpurnia, qui est en voyage, et il lui dit mais pas me mène vers ta chambre, et je reviens tout triste parce que tu n'es pas là. Et puis c'est une merveilleuse déclaration d'amour à une femme qui n'est pas là. Et puis les critiques ont retrouvé les termes chez Horace. Donc on vit son amour à travers les mots des autres. C'est pas pour ça qu'il est moins fort, mais on a besoin d'être dans quelque chose que d'autres ont vécu, et de dire qu'on l'a aussi bien, sinon mieux vécu que les autres.
C'est ça, dans les chansons d'amour, dans la poésie, d'où l'intérêt aussi de s'écrire, y compris d'ailleurs avec les nouvelles technologies, des petits messages d'amour par texto. Regardez comment aussi les rencontres, puisque nous en parlions tout à l'heure sur les applications, les sites internet, laissent place au fameux chat, c'est-à-dire qu'on prend quand même du temps pour écrire, pour comprendre l'écriture de l'autre et la pensée, la structure de pensée de l'autre.
Oui, à tel point que la pire goujaterie, ce ghosting dont nous parlions tout à l'heure,
oui,
ne plus parler tout à coup,
complètement.
Et la pire chose qui puisse arriver. Mm. Il vaut encore mieux une rupture franche que le silence. Et l'amour se nourrit de cet échange, de ces répliques qui n'ont pas une importance en soi. Quand on relit ça après, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut être bête. Mais non, c'est dans le partage de la bêtise, oui, qui est une forme de partage de la vulnérabilité,
voilà,
aussi. Hein.
Que les
sentiments se cimentent.
Un petit mot d'Anne-Lise qui nous écrit de Paris sur le célibat. Si les gens sont célibataires, c'est parfois par choix. Les couples sont plus fragiles aussi dans notre époque. Les gens sont plus volatiles. Les gens se quittent au moindre problème au lieu de se battre et de surmonter ces épreuves. Voilà, la vulnérabilité, vous en parliez, la fragilité aussi. Dans un ciment du couple qui n'est plus le même, parce qu'évidemment, il n'y a plus forcément ce socle du mariage qui contraint peut-être plus et qui fait peut-être aussi plus surmonter les épreuves. Jean-Claude Bologne.
Oui, alors lorsqu'on parle de célibat aujourd'hui, ce n'est pas ce dont on parlait au 19e siècle. Et aujourd'hui, on a des périodes de vie de couple et de célibat qui alternent. Le célibat s'oppose à la vie de couple. Le célibat, au départ, c'est ce qui s'oppose au mariage. Donc on a un statut de célibataire.
Il y en a qui pratiquent le célibat comme ils pratiquent le jeûne aujourd'hui. Hein.
Voilà.
Il y a même ce
qu'on appelle les maribataires.
Les
maribataires, c'est-à-dire...
Néologisme, maribataires.
Oh, ça a une dizaine d'années.
Ah
déjà,
oui,
des gens qui vivent en couple, et puis parce que les vacances ne tombent pas au même moment, la femme part avec les enfants sur les lieux de vacances, l'homme reste au travail, et il a une petite vie de maribataire pendant un mois.
C'est-à-dire être conjugal.
Alors, non, pas nécessairement.
Ah bon, ah oui, parce que sinon, c'est plus un mari, là.
Peut-être, mais on retrouve des comportements de célibataires, c'est-à-dire aller au café, c'est-à-dire les repas seuls. Il y a un mode de vie du célibat qui n'est plus un statut social. Mais je rappelle qu'en 1851, ce qu'on appelait à l'époque les vieilles filles, donc les filles de plus de 60 ans qui n'ont jamais été mariées et qui ne le seraient jamais, c'est 12% de la population. Et c'est extrêmement tragique. Aujourd'hui, on considère que c'est 2 ou 3% de la population qui n'auront jamais connu de vie de couple. C'est ça l'évolution. Ça veut dire qu'une femme à 30 ans au 19e siècle a très très peu de chances de former jamais un couple. L'homme à 50 ans n'a pratiquement plus de chance non plus. Mais la différence d'âge est importante aussi.
On fera une émission sur la différence d'âge dans le couple. Hein. Mais l'histoire du couple, on renvoie. Lequel est sorti en poche ?
C'est l'histoire du couple. Sortir en poche chez Pocket. Oui.
Bah voilà, de Jean-Claude Bologne. L'histoire du coup de foudre aussi, si vous intéresse. Et puis là, on remonte jusqu'à Ramsès II. On a oublié d'en parler. On a tellement parlé de Ramsès, mais ce sera pour notre émission Alba Michel. Merci beaucoup à Manuel Calma, à Sarah Cruz, à Charlotte Arrigoni, à Naïma Benchemal qui m'ont aidé à préparer cette émission. Avec Jean-François Bussière aux commandes et avec vous, ma chère Julie.
Qui s'est trompée dans les dates en lisant tout à l'heure la lettre.
Bah oui, mais en 1833, pas 1933, qui est perturbée par le souffle de Juliette.
Voilà. À demain, Wendy.
À demain.